de cantine.
Bah, surtout s'il y a des lasagnes. 13h, le cœur rose, c'est Wendy Bouchard pour Ma France.
Oh, Fayot.
Ici, avec Wendy Bouchard. Ma France.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Ma France. Alors que des milliers d'agriculteurs venus de toute l'Europe se mobilisent à Strasbourg devant le Parlement européen pour faire pression sur un vote important demain, parvenir à une saisine de la Cour de justice, à une éventuelle suspension du Mercosur, les paysans mobilisés jouent leur dernière carte face à cet accord qui inquiète des filières entières. Nous sommes sur place. Et pendant ce temps, Donald Trump menace l'Union européenne et ceux qui se mettent sur son chemin dans ses intentions de mainmise sur le Groenland. Le président américain agite une menace de 200% de droits de douane sur les vins et spiritueux français. La méthode Trump, eh bien notre invitée, historienne spécialiste de la politique américaine, Nicole Bacharan, nous en parle. La famille royale d'Espagne est sur les lieux du drame après la collision ferroviaire tragique qui a fait 41 morts. Un pays qui entame un deuil national et une enquête qui avance doucement. En politique, en France, la promesse de non-censure du PS après l'annonce de Sébastien Lecornu de faire passer le budget par 49-3 et Marine Le Pen à la barre dans l'affaire de détournement de fonds du Parlement européen au profit du RN. Et puis l'agriculture, c'est notre affaire à tous. Le credo de notre invité fondateur de la marque, c'est qui le patron ? Nicolas Chabanne représente 15 millions de consommateurs qui achètent leurs produits au juste prix pour les producteurs. La mobilisation agricole prend donc une dimension européenne cette semaine. 3000 paysans de France, de Belgique, de Pologne, de République tchèque, de Roumanie ou d'Autriche se réunissent à Strasbourg devant le Parlement européen pour tenter donc de convaincre les eurodéputés de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Il s'agit de vérifier la conformité de l'accord aux traités européens, ce qui pourrait retarder le texte, voire suspendre sa ratification. Une mobilisation au niveau européen qui fait du bien à David Gauzet. Il est cultivateur de pommes de terre entre Dunkerque et Saint-Omer. Lui aussi à Strasbourg.
La crise n'est pas seulement pour les paysans français. Même les pays dont les présidents ont signé le traité du Mercosur, eux sont contre le Mercosur. Donc c'est quand même un signal fort envoyé à l'Europe. Et ce qu'on attend, c'est effectivement de voir ce qu'ils sont capables de mettre devant nos craintes, vu que le traité est signé. Et voir si on peut le faire tomber via les normes sanitaires.
Nicolas Joly, vous êtes notre reporter sur place pour ici à Strasbourg. Vous écoutez, vous échangez avec ces agriculteurs présents, celui que nous venons d'entendre par exemple. Certains de ces paysans vont passer la journée, la nuit prochaine sur place pour faire pression. Et devant le Parlement, Nicolas, vous vous trouvez, les prises de parole se succèdent. Et les paysans s'accrochent donc à ce vote demain comme un dernier espoir.
Oui, Wendy, avec un mot d'ordre très très clair, stop Mercosur. L'Union Européenne et Ursula von der Leyen enterrent les paysans. Les mots sont assez forts contre la présidente de la Commission Européenne. Vous entendez peut-être derrière moi les tracteurs qui continuent de défiler. Ils viennent de toute l'Alsace, de toute la France. Ils ont quitté leur village pour venir donc passer devant le Parlement Européen. Pas directement sous les fenêtres, bien sûr, puisque les accès au site sont bloqués par des barrières anti-émeutes, mais tout de même, à portée de voix, nul doute que les députés ont entendu les prises de parole tout à l'heure. Les paysans qui vont donc continuer de défiler, même si certains commencent à quitter les lieux, d'autres vont rester, vont passer la nuit dans des hôtels qui ont été réservés pour certains ou directement dans leur tracteur pour d'autres.
Nicolas Joly, en direct de Strasbourg, pour ici, lieu de convergence, vous avez compris, de la colère agricole contre le traité de libre-échange du Mercosur. Quel poids du consommateur aussi dans le soutien aux paysans, aux produits français? Eh bien, nous en reparlons dans quelques instants avec Nicolas Chabanne, le fondateur du label qui rémunère les paysans au juste prix. La marque, c'est qui le patron? L'actualité internationale nous préoccupe également dans Ma France, avec un grand désordre mondial et des intentions impérialistes, côté russe évidemment, mais de plus en plus brandies côté américain par Donald Trump. Le président a menacé de sanctions économiques les pays européens qui se mettraient sur son passage en vue d'une annexion du Groenland. Une position qui a provoqué la réunion hier à Paris d'un conseil de guerre à l'Élysée. Et dans la nuit, cette annonce de Donald Trump de droits de douane exorbitants, plus 200% sur les vins et champagnes français. Dans le viseur, Emmanuel Macron.
S'il refuse, j'imposerai des droits de douane de 200% sur ses vins et ses champagnes et il adhérera. Mais comme vous le savez, il ne sera plus en fonction dans quelques mois.
Et avec nous pour analyser cette situation tendue, pour le moins, une spécialiste de la politique américaine, l'auteur Nicole Bacharan. Bonjour Nicole.
Bonjour Wendy.
L'une des armes de Donald Trump, chère Nicole Bacharan, ce sont les taxes douanières. Ce n'est pas la première fois qu'il agite cette menace. Une surtaxe brandie de nouveau. C'est sa méthode. Et en face, Nicole, ça réagit. Les bourses européennes ont ouvert dans le rouge ces derniers jours. C'est ça la politique de l'intimidation?
Et les bourses américaines ne sont pas du tout flambantes, si j'ose dire. Oui. Les valeurs qui montent, eh bien, c'est l'or. À l'heure actuelle aussi, à Wall Street et dans, sur les autres places financières. Parce que ce qui se passe, c'est une immense incertitude. Une immense incertitude. Alors, on voit le style propriétaire de Donald Trump. Je vais mettre des taxes de 200% sur ses champagnes et ses vins, comme si c'était la propriété personnelle d'Emmanuel Macron. Et on ne voit pas du tout à qui ça peut profiter. C'est quand même intéressant de voir qu'au fond, quand on regarde un peu précisément, l'opinion des Américains, des citoyens et l'opinion des Européens sur ce style Trump ne sont pas loin les unes des autres.
Oui. Absolument. Ce qui fâche Donald Trump, pour comprendre un peu davantage sa psychologie avec vous de manière générale, c'est qu'on lui résiste. En fait, il est en train de convaincre un certain nombre de pays de rejoindre le Conseil de la paix. Il a lancé une invitation à une soixantaine de pays dans cette instance qui vise, selon les termes de la charte de Washington, à promouvoir, je cite, la stabilité, garantir une paix dans les zones touchées ou menacées par les conflits. Il veut clairement, Nicole Bacharan, repositionner l'Amérique comme gendarme du monde.
C'est plus que gendarme du monde. Moi, ça me donne le sentiment que c'est Donald Trump, roi du monde,
oui,
qui est construit, ou pas, enfin, qui tente en tout cas de construire ses institutions, d'imposer sa volonté ici et là, avec un rythme très très rapide, mais sans suivi. Il se vante d'avoir mis fin à 8 guerres. Il y a ici et là un cessez-le-feu bien fragile, et puis aucune négociation derrière. Et la manière même dont c'est fait nous donne un éclairage sur sa psychologie. C'est une invitation. Entre vous et moi, une invitation, vous pouvez dire, ben non, finalement, je ne viendrai pas. Non. Vous dites non, vous êtes puni. Et si vous voulez garder votre ticket d'entrée au-delà de 3 ans, vous devez payer 1 milliard. Voilà les invitations de Donald Trump.
Oui, alors que la France ne veut pas répondre clairement à cette invitation. Emmanuel Macron y voit, si je résume, un traquenard. Et ça, Donald Trump ne l'accepte pas. Comment vous définiriez pour nos auditeurs la relation transatlantique aujourd'hui entre la France et les États-Unis, version Trump ?
Mais écoutez, que ce soit entre la France et les États-Unis ou entre l'Europe et les États-Unis, on en est à peu près au même point. Il n'y a plus de véritable alliance. Il y a une relation de nos pays avec Donald Trump selon les règles de Donald Trump. Rien d'autre ne s'applique.
Avec son obstination, on en terminera là, d'arrêter, son obsession, j'allais dire, d'arrêter les guerres, de faire tomber certains dirigeants, on l'a vu au Venezuela, avec Nicolas Maduro, de pacifier certaines zones, ça devient obsessionnel, en effet. Alors, est-ce la quête d'un éventuel prix Nobel de la paix ? Qu'est-ce qui le guide, au fond ?
Ben vous avez noté d'ailleurs qu'au sujet du prix Nobel, il a envoyé des messages au premier ministre norvégien, également le premier ministre finlandais, disant au premier norvégien, puisque votre pays n'a pas voulu me donner le prix Nobel de la paix, je me sens pas tellement tenu de promouvoir la paix à travers le monde. Ce qui est déjà aberrant. Je pense que le centre de la démarche générale de Donald Trump, c'est sa volonté de s'affranchir de toutes les règles, de toutes les contraintes et d'imposer sa loi selon sa vision à lui.
Et ça inquiète évidemment en Europe, Groenland les premiers, aux États-Unis également. Vous nous citiez les bourses, la bourse américaine, Nicole Bacharan. Je renvoie à votre ouvrage passionnant coécrit avec Dominique Simonet, Requiem pour un monde libre entre Trumpisme et islamisme, la tenaille totalitaire, aux éditions de l'Observatoire. Merci chère Nicole, vous qui êtes historienne, spécialiste des États-Unis. Cette politique de Donald Trump qui nous fait peur, qui provoque pour le coup un rapprochement des Européens, qui prépare des contre-mesures, notamment la non-ratification au Parlement de l'accord commercial avec les États-Unis face à ces menaces d'explosion des droits de douane qui affolent évidemment nos filières, la filière du vin. Jérôme Boer est viticulteur en Alsace, il préside la Confédération nationale des producteurs de vin à l'appellation d'origine contrôlée.
On prend ces menaces très au sérieux parce qu'on commence à connaître malheureusement un petit peu le personnage Trump qui va souvent au bout de son raisonnement. Surtaxer les vins demain aux États-Unis, qui est le premier marché export en valeur de nos produits d'appellation, serait dramatique pour notre filière. On parle en milliards d'euros, évidemment, du 200%, ce serait quasiment l'arrêt total des exportations vers les États-Unis. Le taux de change est extrêmement défavorable à l'euro aujourd'hui. Le transport a beaucoup augmenté. Si on rajoute encore 200% de taxes, c'est même plus la peine d'envisager d'exporter du vin aux États-Unis.
Une menace du président Donald Trump d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français. Autre réaction des vignerons indépendants du Vaucluse, 200% de taxes, carrément un embargo. Il est 13h09 et en politique, Sébastien Lecornu a fait le choix donc de recourir 49.3 pour faire passer le budget, reniant sa posture initiale face au risque d'enlisement parlementaire. Le Premier ministre engagera donc la responsabilité de son gouvernement cet après-midi sur la partie recette du budget. La France insoumise et le Rassemblement national où chacun déposait le dépôt d'une motion de censure qui ne menace pas en l'état actuel des forces le gouvernement, car le Parti socialiste s'engage à ne pas censurer. C'est en tout cas ce que plaidera le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, auprès de son groupe. Il était invité de France Inter ce matin.
Quand personne n'a de majorité, il faut un changement culturel. Ce changement culturel, c'est d'accepter de négocier, y compris avec des gens qui vous font face. Moi, je ne suis pas devenu macroniste, le Premier ministre n'est pas devenu socialiste, mais il y avait la nécessité pour les uns et pour les autres de composer. Moi, ce que je crois, c'est que les Français ont fait un choix il y a un an et demi. Ils n'ont donné de majorité à personne et ils nous ont dit au fond, débrouillez-vous avec ça.
Nous ne censurerons pas le gouvernement, dit donc Olivier Faure. Et après le recours au 49.3, l'adoption d'un texte définitif pourrait intervenir autour du 2 ou du 3 février. Marine Le Pen se retrouve à la barre cet après-midi dans le procès en appel des assistants parlementaires des eurodéputés du RN. Audition cruciale pour la présidente du parti à l'Assemblée, condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité. Elle espère faire alléger sa condamnation pour avoir une chance de se présenter à la présidentielle. Pierrick Bonneau.
Sommet de ne pas faire de commentaires. Dans les médias, les députés du Rassemblement National observent à bonne distance le début de ce procès en appel. Mais lorsqu'on interroge un gradé du RN sur les premiers mots de sa patronne à la barre la semaine dernière, il ne cache pas son soulagement. Elle fait évoluer sa défense, c'est le bon choix. À partir du moment où ça n'a pas fonctionné en première instance, il fallait bouger. À la barre mardi dernier, la triple candidate à la présidentielle reconnaît à demi-mot que son parti a pu commettre un délit, mais nous n'avions, dit-elle, aucun sentiment de l'avoir commis. Une légère inflexion sur le fond, mais surtout un changement dans la forme. Marine Le Pen fait profil bas devant la cour, fuit les caméras. Le climat est plus serein qu'en première instance, observe l'un de ses lieutenants. Alors forcément, Marine a moins envie de jouer à la castagne. Elle sait aussi, surtout, qu'elle joue son avenir politique.
À l'autre actualité judiciaire, elle se joue au tribunal correctionnel de Lille. C'est l'université qui comparaît pour homicide involontaire aux côtés de trois étudiants qui ont organisé ou hébergé une soirée d'intégration qui a viré au drame. C'était en 2021. Simon, un étudiant de 19 ans qui venait d'être admis en deuxième année de médecine, rentre de cette soirée très alcoolisé. Il va faire un selfie sur un pont avant de chuter et d'être percuté par un camion. Depuis 5 ans, ses parents se battent pour faire reconnaître notamment la responsabilité de l'université dans la mort de leur fils. On vous retrouve en direct devant ce tribunal correctionnel pour Ici Nord, Stéphane Barbereau. C'est un procès, Stéphane, qui permet aussi de faire la lumière sur les soirées étudiantes fortement alcoolisées.
Ouais, l'alcoolisation à outrance lors de ces soirées d'intégration est au cœur en effet de ce procès parce qu'il n'y a pas eu d'acte humiliant ce 8 juillet 2021. Juste, si l'on peut dire, une soirée de pré-intégration pour les étudiants tout juste admis en deuxième année de médecine dont Simon, âgé de 19 ans. À l'audience, les co-organisateurs de la soirée qui sont des étudiants sont jugés pour bizutage. Ils décrivent tous les précautions qui avaient été prises. Les étudiants les plus âgés étaient répartis en groupes. Il y en avait un qui était baptisé PLS, position latérale de sécurité. En gros, ils étaient chargés de venir en aide aux étudiants trop ivres. Un autre groupe était chargé, lui, de nettoyer l'appartement qui hébergeait cette soirée, dont le sol et les murs étaient recouverts par précaution de bâches et de cartons. Aucun étudiant n'était obligé de boire, assure ces jeunes co-organisateurs, chef d'un groupe de deuxième année qui était baptisé les Borgia, cette famille romaine de la Renaissance connue pour sa décadence. Sur Facebook, la vidéo d'ailleurs qui annonçait cette soirée de réintégration se finissait par ces mots « Prépare ton foie ». Pas d'obligation de boire, mais qu'en est-il de la pression sociale, du risque d'être mis de côté si on ne participe Si on ne participe pas, ceux qui ne buvaient pas avaient inscrit sur le front H2O, explique une étudiante co-chef de ce groupe. Ils n'étaient pas mis de côté, ils n'étaient pas contraints. Pour autant, l'université de Lille, elle, est également poursuivie, vous l'avez dit, Wendy, pour homicide involontaire, pour ne pas avoir empêché ces soirées. Son président a assuré à la barre avoir découvert ces soirées sauvages suite à ce drame.
Stéphane Barbereau, pour Issinor, vous qui suivez ce procès au tribunal correctionnel de Lille, merci. En Espagne, maintenant, le pays entame aujourd'hui un deuil national de 3 jours après l'effroyable collision ferroviaire en Andalousie qui a fait au dernier bilan 41 morts. Le roi et la reine d'Espagne sont arrivés sur les lieux pour témoigner leur soutien aux familles des victimes et aux blessés. Et les secours poursuivent encore leurs recherches dans les carcasses des 2 trains. La commission d'enquête a commencé les investigations. Henri de Laguérie, pour l'instant, rien ne permet d'expliquer ce déraillement, mais des questions se posent autour de l'ouverture du ferroviaire à la concurrence.
L'erreur humaine est écartée, le sabotage aussi, il ne s'agit pas non plus d'un excès de vitesse et puis le train Irio avait été inspecté 4 jours avant l'accident. Alors l'enquête s'oriente vers la rupture d'une soudure entre 2 rails, une hypothèse alimentée par la photo qui circule d'un rail sur le lieu de l'accident qui présente une coupure de 30 cm. Mais Oscar Puente, ministre des Transports, appelle à la prudence.
Cette thèse n'est qu'une spéculation de plus. Il y a eu une rupture de voie, c'est évident, mais il faudra déterminer si c'est la cause ou la conséquence du déraillement.
Le réseau ferroviaire est mis à rude épreuve depuis l'arrivée en Espagne des Ouigo de la SNCF et des Irio de Trenitalia sur le couloir andalou. Le trafic a augmenté de 30 à 40% en 3 ans seulement. Teresa Via Damus, près de la ligne à grande vitesse.
Il y a beaucoup plus de trains qu'au début de la grande vitesse dans les années 90. Il y en a à n'importe quelle heure. Parfois, le trajet ne coûte que 10 ou 15 euros. Et donc, aujourd'hui, on a un train qui passe ici, sur la même voie, toutes les 5 minutes.
Le réseau est-il suffisamment entretenu? C'est la question qui se pose ici et qui inquiète dans un pays, l'Espagne, qui dispose du plus grand réseau à grande vitesse d'Europe.
Henri de Laguérie en Andalousie pour ici. À l'instant, le ministre de l'Intérieur espagnol écarte l'hypothèse d'un sabotage qui serait à l'origine d'une catastrophe ferroviaire d'ampleur. 41 morts, je vous le disais, au dernier bilan. Un petit mot après les intempéries dans l'Aude où le plus dur est passé. La vigilance orange a été levée. Le maire de Narbonne nous a annoncé hier dans Ma France la fermeture prolongée aujourd'hui des établissements scolaires, l'absence de transport en commun aussi dans les 109 communes de l'arrondissement. La prudence reste donc maître mot, même si l'heure est à la décrue. Et puis cette info de nos amis d'ici Normandie, selon lesquels le trafic ferroviaire est interrompu entre Le Havre et Yvetot après un accident de la circulation spectaculaire. C'est une voiture qui se retrouvait suspendue sur les caténaires de la ligne Le Havre Paris, impossible de rallier en train à 7h Le Havre depuis Rouen ou Paris et inversement. La SNCF estime l'heure de reprise de la circulation après 14h. Et puis on connaît désormais la programmation finale de la 50e édition du Printemps de Bourges qui ouvre la saison des festivals du 14 au 19 avril. Patti Smith, Abdelmalik, Dominique A et Philippe Catherine viennent compléter les têtes d'affiche. Merci d'être à l'écoute. D'ici, il est 13h17.
Ici, l'actu au cœur des territoires. Ma France.
Et dans Ma France, nous mettons de nouveau en lumière le combat des agriculteurs. Nous étions à leur côté devant le Parlement européen à Strasbourg. Eux qui maintiennent avec leurs collègues européens la pression sur les politiques avec cet ultime combat contre le Mercosur. Ils tentent de pousser les eurodéputés à saisir la Cour de justice européenne pour vérifier si cet accord est compatible avec les traités européens, avec nos normes sanitaires. Cela pourrait se jouer à quelques voix près et ces dernières heures sont donc d'importance. Il y a ce combat européen, il y a ce combat agricole et puis celui dont nous, citoyens, consommateurs, pourrons nous saisir. Il en est question avec notre invité. Bonjour Nicolas Chaban.
Bonjour.
Vous êtes Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron ? Ces agriculteurs, vous êtes en lien direct avec eux puisque vous avez convenu ensemble avec eux, avec près de 3000 agriculteurs, du juste prix pour ces producteurs éleveurs, pour les œufs, pour le lait, pour le beurre, pour les pommes de terre. On a le sentiment qu'ils jettent leur dernière force dans ce combat. C'est dur. Est-ce que c'est désespérant ? Quel est votre sentiment sur ce qui se joue ces heures encore ?
Oui, c'est bien résumé. C'est vraiment, il faut avoir en tête, d'abord, on en connaît tous, hein, des producteurs. C'est des gens courageux, hein. C'est pas des gens qui manifestent pour essayer d'avoir, pour faire des caprices ou avoir simplement des jours de congé en plus. Ils veulent juste vivre de leur travail. On est en face vraiment, nous consommateurs, on est à leur côté depuis 10 ans. Ce sont des gens exemplaires qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent dans le lait 7 jours sur 7 pour remplir nos assiettes et demandent simplement à pouvoir s'en sortir et à travailler. En ce moment, ce qui se joue, c'est que au niveau de l'Europe, si on doit faire une photographie très simple, l'Europe demande depuis des années des normes et une qualité très particulière aux producteurs français ou européens, mais français encore plus. Et en même temps, elle dit, on va faire venir du fin fond du monde des produits faits dans des conditions qu'on n'accepterait pas. Vous vous rendez compte un peu l'absurdité. C'est-à-dire que là, vous avez des gens qui sont à Strasbourg aujourd'hui et dans cette immense difficulté des producteurs, mais face à une injustice, mais absolue. Donc nous, consommateurs, on a quand même des choses à faire pour eux.
En particulier sur certaines filières, parce que vous dites les choses de manière très claire aussi, Nicolas Chabanne, qui s'inquiète de ces normes étrangères moins contraignantes, ce déferlement de produits dans nos pays, cette concurrence déloyale. Je pense aux producteurs et aux éleveurs de poulets, de volailles, de bœuf, les céréales, le sucre notamment. Quel poids du consommateur dans le soutien aux produits français ? C'est la parole que nous souhaitions vous donner aujourd'hui. Alors que vous avez, vous, dans votre giron avec la marque C'est qui le patron, 15 millions de Français qui achètent vos produits. À chaque passage radio, média, on lance avec vous ce message, Nicolas Chabanne, et vous, le premier, vous ne touchez rien là-dessus, vous avez juste envie d'être un citoyen harmonieux, achetons encore, et plus encore, ça c'est une forme de combat.
Oui, merci, c'est vrai qu'on est une coopérative de consommateurs, il n'y a pas d'enjeu financier dans notre aventure. Quand on achète, ceux qui sont aidés, c'est les producteurs. Voilà, il n'y a pas de banque, de fonds cachés dans un coin, c'est une initiative citoyenne solidaire. Et aujourd'hui, le message, rapidement, il y a deux messages. Il faut vraiment qu'on se rende compte, tranquillement, je dirais, sans faire d'alarmisme, mais qu'on ait quand même les yeux bien ouverts. Les producteurs, ils disparaissent. 27 fermes mettent la clé sous la porte tous les jours. Ouais. 200 exploitations par semaine. Ça veut dire que ceux qui nous nourrissent tous les jours, qui veulent juste vivre de leur travail, ils sont en train de s'arrêter. Dans 5 ans, la moitié des producteurs arrivent à l'âge de la retraite. Qui va nous nourrir si les plus jeunes ne reprennent pas ? Donc on a évidemment à les soutenir parce que c'est justice, mais pensons aussi à cette nourriture faite près de chez nous. C'est capital qu'elle soit là aujourd'hui comme demain. Et pour ça, il faut qu'on achète français. C'est-à-dire que acheter français, c'est respecter le travail de ses producteurs, avoir des produits de qualité, faire en sorte que demain, il y ait encore des produits pas loin de chez nous. Ne comptons pas sur la possibilité, et ça c'est un peu bureaucratique, le décalage qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui réfléchissent pour nous et qui se disent, bon, s'il y a moins de production française, on prendra la nourriture du bout du monde. Mais dans le contexte géopolitique, ce qu'ils n'avaient pas forcément prévu, c'est que les bateaux qui vont amener cette nourriture de très loin, ils vont serpenter entre les conflits. Arrêtons de parier sur le destin des producteurs en même temps que le nôtre, protégeons-le tous les jours, ils sont près de chez nous et ils demandent juste à vivre de leur travail, pas plus.
Oui, alors il faut convaincre, diffuser ce message, cette philosophie, Nicolas Chabanne, vous allez nous le dire après avoir écouté ces paroles de Français de Picardie. Ils sont conscients du désarroi dans lequel se trouvent nos agriculteurs, mais en bout de chaîne, dans les rayons, c'est souvent, c'est ce qu'ils disent, en tout cas le portefeuille qui guide leur choix de consommateur. Écoutez ces clients d'un supermarché de Roy dans l'est de la Somme.
Leur cause elle est noble parce qu'ils ont vraiment un métier qui est vraiment mais vraiment compliqué. Mais en même temps, nous en tant que consommateurs, on n'a pas tous le pouvoir de changer les choses en fait. Certains oui, mais pas tous. En général, on se fixe surtout sur les prix. On fait pas vraiment attention à l'origine. Je pense que l'origine, on fait attention quand on a un peu plus de moyens. Mais pour nous, c'est plus complexe de choisir en fonction de l'endroit.
Nous, on fait selon nos moyens.
J'essaye de voir les productions françaises. Le prix, je regarde pas trop. Ça coûte cher de toute façon. Mais je préfère acheter de la qualité, en manger moins souvent et voilà.
Moi, je prends le moins cher. Parce que français, des fois, c'est cher hein, quand même. Je regarde, je calcule, il y a une sacrée différence, ouais.
Bon, j'essaie de regarder, bien sûr, si c'est français ou pas, mais c'est le prix qui va faire la différence. Si c'est 1 euro de différence, je vais prendre français. Bon, après, si ça a trop d'écart, je prends ce qu'il y a.
Nicolas Chabanne, vous êtes avec nous, fondateur de la marque C'est qui le patron, ce modèle coopératif. Que répondent d'abord à ces consommateurs picards ?
Bah, ça, on comprend parfaitement, mais il faut qu'on ait mathématiquement des chiffres bien en tête. Oui. Il y a 22 à 30% de familles qui ne peuvent pas rajouter même des centimes supplémentaires, parce que quand tu n'arrives pas à nourrir ta famille, on peut même pas te parler, même si tu le souhaites, d'un effort sur des produits français. Il faut qu'on trouve des solutions pour elles, il faut jamais les oublier, il faut pas qu'il y ait une nourriture à deux vitesses. Le gaspillage alimentaire, le Stade de France rempli à bord chaque année de produits qui ne voient pas un estomac humain, je pense que ça, c'est une source extraordinaire pour ramener de la nourriture moins chère. Mais Parlons des 70% de gens qui peuvent faire ces efforts-là. Le problème, c'est que si les produits sont pas en rayon, ou ne sont pas tracés, ou ne sont pas clairs, ou qu'on n'a pas la garantie qu'on aide les producteurs, ben on fait tous la même chose, hein, on achète finalement un peu le moins cher. Donc il faut à la fois qu'on n'oublie pas, les témoignages sont clairs, hein, quand tu peux pas, tu peux pas, mais il faut que tous ceux qui peuvent rajouter des centimes, 4 euros par an sur le lait, voilà ce que ça nous coûte pour que le producteur vive de son travail, 1,60 € sur le jus de pomme. On croit souvent que c'est 10 euros, 100 euros par an, c'est pas vrai, c'est quelques centimes. Donc il faut qu'on ait les infos, il faut qu'on ait de la transparence. Nous, on a demandé là une convention citoyenne. Ah, parfois, ça ne marche pas les conventions citoyennes, mais je vous assure que nous, on va les faire fonctionner.
Autour de l'alimentation.
À plat. Oui. C'est notre argent. Dites-nous à quoi sert notre argent. Mais soyez sûrs d'une chose, faites les efforts au maximum, ceux qui peuvent, parce que s'ils arrêtent, effectivement, ces producteurs, on va se retrouver, mais dans une fragilité, mais vitale, existentielle. Qu'est-ce qui est plus important que de nourrir tous les jours ?
Revenez d'un mot, Nicolas Chaban, sur cette convention citoyenne autour de l'alimentation. Vous avez émis ce vœu il y a quelques jours, ce souhait au Sénat que la production la protection des producteurs devienne une priorité nationale. Mais vous voulez plus que ça, remettre tout à plat, ça veut dire quoi ?
Oui, en un mot, ça fait 40 ans. Que tous les gens qui, enfin tous ceux qui doivent le faire pour nous, pour les producteurs, n'y arrivent pas. On va dire ça comme ça. Nous, on relève tous la tête, les consommateurs, en se disant tout l'argent de ce monde agroalimentaire économique, il sort de nos poches. Donc, plutôt que d'être mis de côté, ce qui est le cas, hein, nous on n'est jamais au milieu de ces débats. On va s'inviter. On va dire à tout le monde, ok, c'est notre argent. Oui. Dites-nous si le producteur gagne bien sa vie. Dites-nous pourquoi, à un moment donné, ça ne parvient pas jusqu'à lui. On va tout remettre à plat. Et la convention citoyenne, c'est un outil démocratique qui le permet, va nous permettre de le faire. Le CESE étudie ça aujourd'hui et on espère qu'ils prendront la bonne décision.
Il viendra nous en parler sur l'antenne d'ici, Nicolas Chaban, avec votre système, votre modèle coopératif formidable. 2500 familles agricoles de producteurs aidées en solidarité avec ces 15 millions de consommateurs français qui achètent vos produits déterminés au juste prix pour ces éleveurs et ces producteurs. 17 produits solidaires de la marque C'est qui le patron, je vous rappelle, notamment les œufs, le lait, le beurre, les pommes de terre. Au jour de cette mobilisation des agriculteurs, si nombreux à l'appel de la FNSEA devant le Parlement européen de Strasbourg. C'est impressionnant hein, les images que nous voyons, Nicolas Chaban, pour terminer avec vous, près de 5000 agriculteurs mobilisés de toute l'Europe, parce que oui, il n'y a pas que les Français qui peinent aussi, il y a des modèles agricoles européens qui sont en péril également.
Ben c'est vraiment une profession tout entière. Rappelons-nous qu'il n'y a pas une profession plus importante pour tous les autres que les producteurs. C'est eux qui remplissent nos assiettes. Il faut qu'on les protège. Il faut que ce soit une priorité nationale. Il ne faut pas qu'on soit les seuls hein, à mettre des centimes en plus. Il faut que le gouvernement fasse en sorte qu'ils soient protégés parce que leur destin, c'est directement le nôtre.
Et c'est l'une des œuvres de votre vie, Nicolas Chaban. Merci d'avoir fondé cette marque et d'en parler aussi si bien sur nos antennes, notamment. La marque, c'est qui le patron ? Ce modèle coopératif, je vous renvoie sur le site internet où vous trouvez justement les productions associées et les chiffres circonstanciés. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Merci beaucoup. Nicolas Chaban, 4900 agriculteurs mobilisés en ce moment au Parlement européen à Strasbourg, 700 à 900 tracteurs qui convergent vers le Parlement à l'heure où nous parlons. Merci.
Ici, Ma France.
On se quitte avec C'est pas vrai, votre rendez-vous anti-arnaque au Drazo. Vous qui avez recueilli le témoignage d'une personne victime d'un véritable fléau, l'usurpation d'identité.
Oui, et ce témoignage, il va nous être utile à tous parce que quand des escrocs se font passer pour vous, les conséquences peuvent être dramatiques. Pour Catherine, il y a d'abord plusieurs alertes. Microsoft l'avertit que quelqu'un a eu accès à son compte. Elle ferait mieux de changer de mot de passe. Ensuite, c'est Bouygues, son opérateur, lui, l'informe qu'un usurpateur a utilisé sa carte d'identité pour faire des achats. Et puis vient le moment où Catherine me dit « j'ai paniqué ». Elle se rend compte qu'elle n'a plus du tout accès à sa boîte mail. Les escrocs ont pris le contrôle.
Et qu'ont fait les malfaiteurs avec sa boîte mail ?
Alors ça, Catherine l'a compris quand elle a réussi à reprendre le contrôle. En fait, son adresse a inondé la terre entière, Chili, États-Unis, etc., avec des mails frauduleux. Vous savez, ces mails qu'on reçoit tous les jours, les faux PV, les faux abonnements, les faux achats, eh bien l'adresse mail de Catherine a servi à ça. Et ce n'est pas tout. Je vous ai dit que les escrocs avaient aussi utilisé sa carte d'identité. Comment ils l'ont eue ? Eh bien pareil, grâce à sa boîte mail. Catherine me dit que dans ses éléments envoyés, il y avait sa carte d'identité, ses fiches de paye aussi. En fait, Catherine s'était portée garant pour ses enfants. Elle avait donc envoyé un jour ses documents. Si vous aussi, vous avez déjà envoyé votre copie de carte d'identité, surtout, supprimez-la de vos éléments envoyés. Et si vous devez en renvoyer un jour, je vous donne un site, filigrane.beta.gouv.fr, c'est un site de l'État. Il vous permet en fait d'ajouter un filigrane, des petites lignes par-dessus votre carte d'identité, et vous écrivez ce que vous voulez, par exemple, document exclusivement réservé à la location immobilière. Comme ça, un escroc ne pourra pas l'utiliser pour autre chose.
Aude Raso, merci, on se retrouve demain à l'issue de Ma France.
Bonjour, c'est Stéphane Bern.
Réveillez-vous chaque matin avec Ici et laissez-vous surprendre par l'histoire de France.
Bien avant Carlos Ghosn, caché dans une malle, Napoléon III a signé l'une des évasions les plus culottées de l'histoire.
Stéphane Bern voyage dans le temps.
2 ans plus tard, il entre à l'Élysée.
Écoutez Ici chaque matin, juste avant les infos de 8h.
Et à tout moment sur ici.fr.
12h30.
Allez, échauffement.
12h32. 12h33.
Go.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web.
Ici Orléans. Tous les jours à vos côtés.
Et votre Ici Express qui vous invite à un week-end artistique, minéral et naturel dans le Loiret. Et ce week-end, direction Sully-sur-Loire pour le 23e salon des antiquaires, métiers d'art et décoration. Ça se passe à l'espace Blaro et pas Blaireau. Découvrez meubles anciens, objets d'art et créations uniques parmi une cinquantaine de stands professionnels. Attention, l'entrée payante, 2€. Toujours ce week-end, plongez dans l'univers fascinant du 46e salon minéraux, fossiles et gemmes et bien-être. C'est au gymnase Marie-Amélie Le Fur de Saint-Jean-le-Blanc, cristaux fossiles, bijoux de créateurs et lithothérapie vous attendent parmi 50 exposants avec des pièces uniques et dès 1€. La restauration est évidemment sur place et le parking gratos, et c'est on apprécie. Enfin, profitez du parc floral de la Source à Orléans, gratuit tout l'hiver, de midi à 17h jusqu'à mi-mars. Tiens, ça me donne envie d'y aller, tiens, en lisant ça. Toboggan, aires de jeu et animaux pompants, ânes, chèvres, alpagas pour une sortie familiale inoubliable sans vous ruiner. Des bisous, bel après-midi.
Ici Orléans.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again. tyran encore plus lourd.
Toujours avec Bernard Lavillier. Bienvenue ici Orléans l'après-midi. Nous sommes le 20 janvier et c'est l'anniversaire d'Omar Sy. L'acteur qui est né à Trappes fête aujourd'hui ses 48 ans. Et l'acteur d'origine sénégalaise, eh bien, s'est réjoui de la victoire du Sénégal face au Maroc. C'était pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il était d'ailleurs au stade. Et tiens, d'ailleurs, eh bien, le 16 juin prochain, il y aura un France-Sénégal. Ça sera le tout premier match de l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde 2026, en espérant ne pas revivre la désillusion de 2002 où la France était inclinée 1-0 face au Sénégal. Taylor Swift, Balavoine, à suivre votre chronique Légende ici qui vous emmène aujourd'hui dans la sublime salle des fêtes de Montargis.
Ici,
Orléans.
James nous fait découvrir les gens d'ici.
Cassandra, 26 ans, technicienne dans le spectacle.
Avant, vous avez longtemps travaillé dans la restauration.
Ouais, pendant 7 ans. C'est un métier où on a vachement besoin de s'occuper des gens et on est un peu un soutien émotionnel quand on est derrière un bar.
Technicien son, technicien lumière, technicien quoi exactement ?
En vrai, ce que moi j'aime, ça va être ce qu'on appelle le road, décharger des camions et tout ça, un peu les tâches que les autres n'aiment pas forcément. Mais sinon, j'essaye de me spécialiser dans la lumière plus. Entre un concert de jazz, un électro set ou une pièce de théâtre, ça va avoir des besoins complètement différents et des méthodes complètement différentes aussi du coup.
Il y a des termes que vous connaissez mais que quelqu'un qui ne fait pas de la lumière ne peut pas connaître ?
Oui, moi je me suis surprise à entendre beaucoup de mots qui pouvaient être complètement remplacés remplacer par d'autres mots qu'on connaissait déjà, en fait, genre des garcettes pour des élastiques ou des psychés pour un miroir. Je me demandais pourquoi on inventait des mots qui existaient déjà, mais c'est très drôle.
Vous habitez plutôt dans le Montargois. Il y a une salle pour vous un petit peu fétiche.
La salle des fêtes de Montargis, c'est vraiment une magnifique salle. Moi, je sais que quand j'étais petite, on faisait des sorties à l'école là-bas et j'étais toujours émerveillée parce que c'est vraiment peint partout, c'est un style art déco avec des peintures faites à la main sur tous les murs, c'est vraiment magnifique. Il y a des gradins dans la salle, donc ce qu'on appelle ça des gradins aujourd'hui pour donner une meilleure vision, mais c'est un étage, ouais. La scène, c'est une scène à l'italienne déjà, donc ce qu'on appelle une scène à l'italienne, c'est une scène penchée.
C'est régulier d'avoir une scène à l'italienne, je connaissais pas. C'est qu'elle est, les acteurs sont pas, c'est pas droit en fait, c'est pas plat.
C'est vraiment le style italien de l'époque, c'est que la scène, le parquet est légèrement penché vers l'avant en fait. On appelle ça salle des fêtes parce que c'est le terme de l'époque en fait, mais ça a plus du tout la même résonance que ce qu'on appelle une salle des fêtes aujourd'hui. Elle reste une salle communale dans laquelle il se passe surtout des événements organisés par la ville ou par des grosses associations qui vont la louer. Mais c'est pas comme une petite salle des fêtes qu'on peut louer nous pour faire un mariage dedans.
Est-ce que le fait que ça soit une scène à l'italienne, c'est par rapport au titre de Venise du Gâtinais pour Montargis? Est-ce que c'est lié?
Écoute, j'avais jamais fait le rapprochement, mais peut-être. Bonne question.
Est-ce que ce terme d'ailleurs de Venise de Gâtinais, vous en tant que Montargoise, enfin habitant du côté de Montargis, c'est mérité ou c'est un peu galvaudé?
Je vais pas me prononcer parce que je suis jamais allée à Venise. Okay. Voilà. Mais on a une gondole au milieu d'un rond-point.
Ici Orléans.
I know. again.
Chapel Round, Pinky Pony Club. Pink Pony Club. Le 6 février prochain, eh bien, Chapel Round sera au concert à Gold Coast. C'est en Australie, à 15 000 km d'ici. Moi, je vous propose un déplacement, un petit peu plus court sur cette même date du 6 février. Ça sera au Zénith d'Orléans pour le spectacle I Got a Feeling, qui regroupera des stars des années 2000, des stars de la chanson, Alizée, Tragédie, les Worlds Apart, ou encore le créateur du tube Ça m'énerve, Helmut Fritz, si vous l'aviez oublié. Vos places pour le show I Got a Feeling à gagner tout au long de la semaine dans le grand jeu entre 11h et midi. Céline Dion à suivre avec Ici Orléans.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle ?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, ça le débute, hein. Elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non ?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Ici Orléans.
Sur la route, au travail, à la maison.
Actu locale, musique et bonne humeur.
ICI. Une radio, une appli au cœur du Loiret. ICI Orléans.
Bienvenue avec ICI Orléans, il est tout juste 14h.